fort et reclus.
Bonjour à tous les survivants et bonjour à toutes les survivantes de la Terre. Vous écoutez Radio 103 sur 102.3 FM à Périgueux et sur le 95.9 MHz sur Radio Plaisance en Périgord-Noir. Alors en ce jeudi, n'est-ce pas, 7 avril, nous allons commencer cette émission par une lettre. Mais elle n'est pas piégée celle-ci.
J'ai admiré l'excursion ukrainienne. Je crois que désormais le spectacle parlera moins de telles aventures et que la mesure du seuil dangereux va être considérée du point de vue d'une science plus moderne, mieux informée. Bref, va être multipliée par 4 ou par 12. Chacun combat avec ses armes et le spectacle n'en a certainement pas de meilleur contre le vrai péril de l'explosion d'une centrale. Je veux dire bien sûr la psychose de ces puérils et superstitieux aigris non scientifiques. Et d'ailleurs, pourquoi une telle explosion devrait-elle être plus sanglante que ce que nous avions cru voir rue Gay-Lussac? Ne nous a-t-on pas toujours dit qu'elle était impossible? Et ce qui est impossible est insignifiant dans ses effets. C'est donc une lettre de Guy Debord à Raimé Semprin du 4 mai 86.
Et on écoute tout de suite donc Xavier Rabillou, le porte-parole du réseau pour sortir du nucléaire. Dans le Canu Info du 11 mars.
Je suis Xavier Rabillou, porte-parole du réseau Sortir du Nucléaire. Et donc nous sommes actuellement mobilisés 24 heures sur 24 dans le contexte de cette catastrophe nucléaire majeure à laquelle on assiste au Japon. Là, d'après les dernières informations dont on dispose, voilà, que j'ai pu consulter entre les 15 000 coups de fil que l'on a en permanence, on est dans une situation qui empire d'heure en heure. Là, d'après ce qu'on sait, sur certains réacteurs, les travailleurs, enfin, qu'on peut appeler à ce stade des liquidateurs, hein, comme c'est le cas pour Tchernobyl, ce sont des gens qui actuellement sacrifient leur vie, il faut le dire sans phare, travaillent par roulement de une minute. Exactement comme ça a été le cas à Tchernobyl, parce que tout simplement les niveaux de radioactivité sont hallucinants. Les niveaux de radioactivité qui ont été communiqués par les autorités sont de l'ordre de 10 fois la dose annuelle admise pour la population en une heure. Voilà, donc pour poser la gravité de la situation.
Et dans beaucoup de médias, on entend beaucoup de choses et souvent n'importe quoi sur les questions de propagation de la radioactivité. Vous, par rapport à toutes vos connaissances, qu'est-ce qu'il en est par rapport au Japon et au reste du monde ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, à ce que les autorités japonaises font croire à leur population et en France aux citoyens français, il n'y a aucune dose de radioactivité qui est inoffensive. Donc les normes qui existent à cet égard sont totalement arbitraires. Elles n'ont aucun fondement scientifique, aucun fondement médical. En fait, ce sont de simples normes d'acceptabilité décrétées par les technocrates, pour le dire comme c'est, où on prétend qu'en dessous, il n'y a rien à craindre. Or, un organisme tout à fait officiel et en bonne part inféodé au lobby nucléaire, qui est la Commission internationale de protection radiologique, reconnaît elle-même en ces termes que aucune dose de radioactivité n'est inoffensive, et en fait toute dose de radioactivité comporte un risque cancérigène et génétique. Alors évidemment, le risque augmente avec la dose, mais aucune dose n'est inoffensive. Voilà ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il est inévitable, à l'heure où l'on parle, que des quantités très importantes de radioéléments retombent sur le territoire japonais. Ça, c'est évident. Là, à l'heure actuelle où on parle, pour le Japon, c'est une catastrophe nucléaire majeure qui va avoir des conséquences sanitaires importantes pour au minimum des dizaines de milliers de personnes. Bien sûr, ça peut prendre des décennies, on le sait, pour faire ses effets, pour que des cancers se déclenchent, etc. Mais il faut bien être conscient de ça, c'est qu'il y a un risque important de contamination des sols, donc de la chaîne alimentaire. surtout dans le cas où les vents tournent vers la Terre. Alors apparemment ça varie, on nous dit que là ils souffleraient vers l'océan, etc. Mais bon, les Japonais mangent du poisson, voilà. Des pluies sont annoncées, la pluie favorise la retombée des radioéléments sur le sol. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il faut malheureusement s'attendre à des conséquences sanitaires lourdes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, ce dont on parle, c'est un risque de contamination radioactive interne, qui est tout à fait différent de l'irradiation externe, ce qu'ont connu les Japonais avec les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, où on a un flash de radioactivité intense, mais extérieur à l'organisme. Là, ce à quoi sont exposés les Japonais, c'est d'ingérer, enfin de boire, manger, respirer des particules radioactives qui vont se fixer dans différents éléments de l'organisme, que ce soit les poumons, le cœur, etc., selon les radioéléments. Et une microparticule peut rester pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et irradie en permanence le corps. Pour prendre une idée, il faut savoir que 1 microgramme de plutonium inhalé suffit à déclencher un cancer du poumon. Or, les réacteurs actuellement accidentés, pour la majorité, fonctionnent avec un combustible spécial, plus dangereux que le combustible nucléaire classique. C'est un combustible qui s'appelle le MOX, M-O-X, qui est un mélange d'uranium et de plutonium, justement. Ce plutonium qui déclenche, avec 1 microgramme, un cancer du poumon. Alors, pour revenir sur la question de la dispersion des radioéléments éventuellement au-delà du Japon, là, très honnêtement, je m'avancerai pas à formuler quelque affirmation que ce soit, parce que, comme je vous disais à l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes sur les paramètres de relâchement, notamment je pense à des choses comme l'altitude, au régime des vents, aux quantités relâchées, etc. Honnêtement, on n'a pas les informations à l'heure actuelle pour se prononcer là-dessus. C'est ce que dit également la CRIRAD, donc la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Par contre, clairement, moi j'ai la crainte les radioéléments se dispersent bien au-delà du Japon. Après, à savoir si ça va toucher les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays asiatiques, voire au-delà, là, à l'heure actuelle, on ne peut pas le savoir encore de façon certaine.
Je voulais revenir sur la France.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de déclarations qui disent que ça va, s'il y a une catastrophe en France, ça ne pourra pas être une catastrophe. Parce qu'il y a souvent deux éléments qui sont repris, c'est que les centrales nucléaires ne sont pas construites sur des zones sismiques et aussi qu'il y a un organe de surveillance et de transparence qui est l'ASN.
Voilà.
Et donc je voulais votre avis là-dessus.
Alors la première chose qu'il faut dire, je crois, c'est que actuellement il est beaucoup question du risque sismique par rapport aux centrales. Mais l'important, c'est bien de comprendre qu'il y a toute une série de risques sur les centrales nucléaires. Le premier risque, c'est quoi? C'est le risque que posent les centrales en fonctionnement normal, non accidentel. Une étude épidémiologique allemande, commanditée par le ministère de l'Environnement allemand en 2008, et qui est la plus vaste jamais menée dans le monde, autour de toutes les centrales nucléaires allemandes, a montré une augmentation de 60% des cancers de l'enfant dans un rayon de 5 km autour des centrales, et plus particulièrement une augmentation de 117% des leucémies infantiles. Ça, on parle en fonctionnement normal. Et je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire aucune dose de radioactivité n'est inoffensive. Là, on en a la preuve avec une étude de ce type. Première chose, donc le risque en fonctionnement normal. Ensuite, le risque accidentel. On a plusieurs types de risques. On a les risques de catastrophes naturelles, ce dont on parle aujourd'hui, je vais y revenir ensuite. On a les risques d'attentats. Depuis le 11 septembre 2001, on sait qu'un avion de ligne peut être une arme pour mener un attentat. Aucune installation nucléaire au monde n'est conçue pour résister à ce type d'attentat. Pas même le nouveau, entre guillemets, réacteur EPR d'Areva, dont le chantier patine avec des années de retard et des surcoûts par milliard en Finlande et en France. Le réseau sortir nucléaire a révélé en 2003 des documents confidentiels, secret défense, qui montraient que le réacteur EPR ne résisterait pas à un tel attentat. Ça, c'est un second type de risque. Troisième type de risque, la vétusté des installations. Il faut savoir que les réacteurs réacteurs français ont été conçus pour durer 30 ans, pour fonctionner 30 ans. Il y a de nombreux réacteurs, 16 en l'occurrence, en France, sur 58, qui ont dépassé 30 ans aujourd'hui, qui viennent de les dépasser. Il y a des éléments cruciaux pour la sûreté dans les réacteurs qui vieillissent et qui se fragilisent avec le temps et qu'on ne peut pas remplacer. Par exemple, un élément majeur comme la cuve en acier du réacteur qui contient le combustible. Par exemple, l'enceinte en béton du réacteur et tout un tas d'autres choses. En vieillissant, ces éléments se fragilisent, augmentent le risque de fissures, de perforations, etc. ou de fragilisation. Par exemple, en cas de séisme. Un séisme peut engendrer, sur des matériaux affaiblis, peut avoir des conséquences supérieures que sur des matériaux, sur des matériels neufs. Je vais donner un exemple. En 2000, il y a la centrale nucléaire de Davis Bess aux États-Unis, de même technologie que nos centrales françaises qui sont en fait sous licence technologique américaine. Donc la centrale de Davis Bess, on y a trouvé de façon tout à fait fortuite une brèche dans le couvercle de la cuve du réacteur qui se formait depuis 10 ans. Le couvercle de la cuve fait environ 20 cm d'épaisseur. Lorsque la brèche a été découverte, il ne restait plus que 3 mm d'acier avant que le couvercle de cuve soit totalement perforé et donc qu'on assiste à un accident nucléaire majeur. Voilà, ça c'est un effet du vieillissement. Quatrième type de risque, l'erreur humaine. Les travailleurs du nucléaire eux-mêmes, c'est assez nouveau depuis 2-3 ans, tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de travail, manque de moyens, rupture de stock de pièces détachées ou d'équipements de protection, et surtout pression exercée par EDF pour réduire les temps d'intervention et faire des économies au détriment de la sûreté. Voilà, et maintenant je reviens donc sur le risque de catastrophe naturelle et risque sismique. Alors en France, contrairement à ce que prétendent les autorités, on a bien des centrales construites sur des zones à risque sismique, notamment dans le quart sud-est de la France. Alors bien sûr, au plan strictement géologique, le risque sismique en France est moins important qu'au Japon. Ça c'est un fait incontestable. Par contre, le risque d'accident nucléaire en cas de séisme dépend avant tout de la tenue des installations au séisme. En 2003, EDF a falsifié des données sismologiques sur lesquelles elle se base pour défendre auprès de l'autorité de sûreté nucléaire la tenue de ces installations au risque sismique. Et en fait, EDF est allé jusqu'à faire exercer des pressions sur l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui est un peu le bras scientifique de l'autorité de sûreté nucléaire, pour ne pas avoir à mettre ses installations aux normes. Parce que ça lui aurait coûté, elle quantifiait ça à 2 milliards d'euros, ce qui est un investissement que EDF ne souhaitait pas faire, bien évidemment. Voilà, ça c'est une première chose. Et une autre chose très importante, c'est que la catastrophe japonaise actuelle nous donne une démonstration claire et nette que quels que soient les niveaux de normes draconiennes comme elles sont au Japon, moindres comme chez nous, etc., c'est pas une question de normes, c'est une question de prendre la mesure du fait que il est impossible, clairement on a la démonstration, il est impossible de construire un réacteur nucléaire dont on peut garantir à 100% aux populations qu'il résiste à une catastrophe naturelle ou à une combinaison de catastrophes naturelles. Ça c'est la leçon numéro 1.
Waouh, c'est complètement fou, Kushimi.
Et donc, est-ce qu'on peut avoir quand même des infos, vraiment des informations, pas de la désinformation?
On a quelques infos d'aujourd'hui, du 7 avril. Donc, d'abord sur l'état de la centrale à Fukushima Daiichi. Donc, on apprend que le sel accumulé sur les barres de combustible fait obstruction entre le réacteur et l'eau qui est versée, que l'eau qui a été injectée massivement, elle fragilise les structures des réacteurs, que cette eau injectée, ça va créer de l'hydrogène et de l'oxygène qui vont augmenter les risques d'explosion. On apprend aussi qu'il y a eu des petites cachotteries de la part du gouvernement japonais et de TEPCO. Il y a du matériel nucléaire, entre guillemets, qui vient d'une piscine de combustible usagé, qui est une source majeure de contamination, qui est éparpillée sur le sol de la centrale suite à l'explosion du bâtiment en cadre jusqu'à 2 km à la ronde, que des piscines censées refroidir le combustible usagé ont toutes perdu leur système de refroidissement, qu'elles ont perdu leur toit et que leur contenu radioactif est exposé à l'air libre, que contrairement au réacteur en fusion, il n'y a aucune piscine qui n'est équipée d'enceinte de confinement. Pour ce qui est des ouvriers qui se sacrifient sur le site, ils sont maltraités et méprisés par leur employeur, le propriétaire de la centrale TEPCO, qui est une boîte d'électricité privée. Il y a entre 500 et 600 travailleurs à Fukushima. Ils sont très irradiés, contaminés et menacés de mort à court terme. De plus, ils sont mal payés, mal logés sur place et nourris aux biscuits et au riz sec 2 fois par jour. Avant l'accident, une dose de radiation de 100 millisieverts sur 2 ans était la norme pour les ouvriers. Depuis, cette limite a été montée à 250 millisieverts. Il y a encore une très forte suspicion de réaction en chaîne dans les réacteurs, avec beaucoup d'indices qui laissent penser ça. C'est-à-dire que rien n'est sous contrôle, quoi. Avec dégagement de neutrons, ça veut dire des effets particulièrement dangereux pour la santé. On a retrouvé des neutrons à 2,5 km de la centrale hier, je crois. Pour ce qui est de la zone contaminée, on a des résultats sur la radioactivité atmosphérique à Tokyo qui sont 100 000 fois supérieurs à la normale. Ça, c'était le 31 mars. Bien sûr, il y a le problème de tout ce qui se déverse, des millions et des millions de tonnes qui se déversent dans l'océan, dans le Pacifique. Tous les jours, de l'eau radioactive a été déversée depuis l'explosion d'hydrogène. On estime à 700 000 litres par heure ce déversement. L'eau prélevée à proximité de la centrale contient du césium-137, des millions de fois la normale, quoi. Donc la pêche mondiale, on peut dire que la pêche mondiale, elle est menacée par l'accumulation chez les poissons prédateurs des particules radioactives à longue durée de vie qui s'accumulent au fil de la chaîne alimentaire, quoi. Pour ce qui est du gouvernement japonais, ça nous rappelle un peu Tchernobyl chez nous en 86. Le gouvernement japonais cache les véritables prévisions météorologiques aux Japonais. Le gouvernement japonais et la préfecture de Fukushima dissimulent les niveaux de contamination autour des écoles. Les citoyens s'organisent eux-mêmes pour mesurer la radioactivité dans les écoles et essayer de décontaminer, mais bon... Il y a les Sud-Coréens aussi qui apprennent dans les médias que leurs voisins japonais déversent toutes ces tonnes d'eau radioactive dans l'océan. Aujourd'hui, certaines écoles en Corée du Sud étaient fermées parce qu'il pleuvait. Et donc, voilà, il y a des précautions à prendre. Pour ce qui est de la France, il y a la CRIRAT qui donne des informations non expurgées, on va dire, ou... qui essaye d'avoir un peu la vérité sur ce qui nous arrive sur la tête. Donc pour la contamination de l'air, ce qui était perçu comme un passage, c'est pas un passage, c'est pas un nuage qui passe, c'est ce qui se passe au Japon, c'est arrivé une dizaine de jours après sur la France. Et ça va s'accumuler puisque ce qui se dégage de cette centrale n'arrête pas de se diffuser, quoi. Même si il y a eu un pic qui est un peu retombé, mais il y a toujours une inquiétude sur le devenir et le contrôle de cette réaction en chaîne qui continue. Et donc la CRIRAD, elle pointe des risques liés à l'ingestion d'aliments contaminés. Donc elle dit qu'ils sont très faibles, mais selon certaines habitudes alimentaires. On peut prendre des risques. On peut essayer d'éviter des comportements à risque. Par exemple, récupérer de l'eau de pluie pour sa consommation d'eau potable. En fait, faut éviter de le faire. Ou faut éviter de manger des aliments à grande feuille. Donc des salades, des choses comme ça qui récupèrent très facilement la radioactivité qui tombe par le biais de la pluie, quoi. Donc voilà pour quelques infos d'aujourd'hui, du 7 avril.
Qu'on arrive à avoir quand même.
Alors, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de musique ?
Kilogram and stupids, dire aux Français que ça ne peut pas se passer chez nous. Et en même temps, je dois penser aux contraintes sur l'économie mondiale.
Forêt reclus à l'Elysée, dans le monde entier, sur Internet. www.radiopéri203.com et sur l'audioblog où vous pouvez écouter, télécharger et diffuser les émissions. audioblog.arteradio.com/forêt reclus à l'Elysée. Tout attaché et sans accent.
La routine du désastre.
Les nouvelles de la catastrophe de la centrale atomique de Fukushima au Japon tournent en boucle. Face à un désastre sans précédent, les médias commentent en direct les nouvelles du nucléaire qui a l'air de n'en faire qu'à sa tête. Les infos fusent, c'est un véritable bombardement, mais rien ne perce.
Non, aucun enseignement ne sera tiré. Une telle catastrophe ne pourrait pas arriver ici. Les journalistes, les experts et les politiciens discutent séisme et tsunami, s'accordant sur le caractère exceptionnel de la situation de cette île lointaine. Ces raclures en profitent même pour vendre la fameuse fiabilité des installations françaises, qui seraient les plus sûres du monde. Sans jamais rappeler que n'importe quelle erreur humaine peut produire le même résultat partout. Sans jamais préciser que n'importe où en France, nous habitons toujours à moins de 100 km d'une installation nucléaire.
Ils se garderont bien de préciser que derrière la catastrophe, c'est un quadrillage et une gestion militaire qui s'instaure. En plus d'être contaminé, chacun sera en permanence contrôlé, testé, mesuré, surveillé et déplacé dans des zones où toute liberté, initiative individuelle et parcelle d'autonomie auront disparu sous le règne kaki.
Leur propagande préfère faire croire que ces opérations désespérées d'acheminement d'eau, de sable, que leurs mesures martiales de confinement et leur pauvre distribution de pastilles d'iode ont pour but notre santé. Pourtant, si c'était vrai, un petit nombre de pays ne la mettraient pas en péril, cette santé, en péril permanent, en s'engageant dans la voie du nucléaire. Derrière cette monstruosité se cachent d'énormes intérêts économiques et stratégiques. Depuis le début, nucléaire civil et militaire sont complètement imbriqués et l'histoire du développement de ces technologies est entièrement liée à un jeu mortifère entre puissants.
La routine du désastre est déjà présente à travers la multiplication quotidienne de ce que ces autruches du nucléaire qualifient par euphémisme d'incidents. Ils nous promettent par exemple, maintenant, de vérifier l'état actuel des 58 réacteurs du territoire français, mais ne disent bien sûr rien des problèmes insolubles posés par les déchets radioactifs qui dorment sous nos pieds dans près de 1000 sites, ni des nombreux cancers et leucémies que subissent celles et ceux qui vivent aux abords des installations nucléaires. Sans compter toutes les barbouzeries au Niger et au Gabon, où Areva exploite la main-d'œuvre locale en la condamnant à une mort lente, en même temps que toutes celles et ceux qui habitent près des mines d'uranium.
Le pouvoir fait comme si tout cela était inéluctable, essayant tant bien que mal d'éviter le pire, mais surtout sans jamais interroger sur ce qui a été et qui reste encore un choix.
En vrai, on pourrait tout de suite se passer du nucléaire et du monde qui le produit. Les écologistes et autres ONG à la sauce verte ne parlent que d'une pseudo-sortie du nucléaire d'ici 20 ou 30 ans, pour ne pas froisser leurs soutiens étatiques et leurs potentiels électeurs. En véritable sauveteur du capitalisme, ils espèrent occuper un rôle de contre-espère pour être associés à sa gestion actuelle.
Que d'images spectaculaires de la centrale en feu, que de mises en scène, de sauvetages épiques, que d'angoissants nuages radioactifs doit-on gober sans réagir ? Que de débats stériles entre politiciens sur les différentes alternatives pour répondre aux appétits dévorants du développement industriel, que de prétendus discours raisonnables pour des mesurettes qui ne remettent rien en cause. Autant de mascarades pour recouvrir d'un voile opaque l'aberration du nucléaire. Il est grand temps de briser la vitrine qu'il représente et de mettre fin à toute cette merde.
Derrière l'horreur de cette catastrophe sans précédent dont on n'a pas fini de compter les morts, c'est l'acceptation à un niveau mondial du nucléaire qui se joue.
L'État tient le rôle du pompier pyromane. Il est celui qui a mis en place tout ce merdier et qui fait maintenant mine d'être le protecteur, le seul à pouvoir assurer la sécurité des populations.
Jamais le monde tel qu'il est et qu'il ne faut surtout pas renverser n'avait trouvé de meilleur garant. Un possible figé qui, à part connaître l'empoisonnement et la militarisation de cette planète, verra à peu près toujours les mêmes en haut et les autres en bas. Les mêmes qui savent et les autres qui suivent.
Ce qu'ils craignent réellement, ce n'est pas le désastre en cours et à venir, ce ne sont pas non plus les appels de leurs sbires citoyennistes à une meilleure gestion de l'existant. Tous parlent encore la même langue du mal nécessaire.
Ce qu'ils ont par contre à redouter, ce sont des luttes contre le nucléaire et le monde qui va avec. Parce qu'ils nous voudraient tous cobayes, résignés et désemparés. Parce que la liberté commence par le sabotage de ce monde qui nous détruit.
Ni cobaye, ni mouton, 19 mars 2011.
Il a les cheveux bleus et les sixièmes d'ouvert. Van il travaille à côté d'une centrale atomique. Elle mange avec son nez depuis que sa bouche est tombée. Nanana, Gaza. Nanana, ta propre vie t'a jamais. Nanana, Gaza. Nanana, ta propre vie t'a jamais. Nanana, arrête le secrétaire à Tchernobyl. Elle tape à la machine avec son nombril. Elle prend le téléphone avec ses lunettes. Elle parle avec le front, elle entend par le pétard. Nanana, Gaza. Ne prends plus pas jamais. Nanana, Gaza. Ne prends plus pas jamais. Nanana. Dans un risque Hiroshima, Jean-François est torqué à l'hôtel Sheraton. Bruno Van de Cassetono dans un club vidéo. C'est le spécialiste du rayon X. Nanana, Gaza. Ne prends plus pas jamais. Nanana, Gaza. Ne prends plus pas jamais.
La fédération de l'industrie nucléaire visée par un colis piégé à Olten en Suisse. Deux femmes ont été légèrement blessées en ouvrant une lettre adressée à Swiss Nuclear. Il s'agit d'une fédération regroupant les exploitants suisses de centrales nucléaires. Il s'agit du premier acte de ce type contre l'industrie nucléaire depuis la catastrophe qui a frappé le Japon.
Merci beaucoup.
Le week-end de Pâques, en Aquitaine, en fait, dans le sud-ouest, deux manifestations sont prévues. Donc le dimanche 24 avril, une manif devant la centrale de Golfech, près d'Agen. Et le lendemain, le lundi 25, qui est férié, un pique-nique devant la centrale du Blayais, à Brault-Saint-Louis, près de Bordeaux. Donc la centrale du Blayais, pour ceux qui se souviennent, donc c'est celle qui est la plus près de Périgueux. Lors de la tempête de décembre 99, il y avait eu l'inondation par la Gironde des bâtiments et la mise hors d'usage de plusieurs installations de sauvegarde. Donc voilà, ça c'est pour les rendez-vous antinucléaires dans la région autour du week-end de Pâques. Il y a eu des luttes sur le nucléaire, on s'en souvient plus, mais Dans bien des endroits en France, le nucléaire, il s'est imposé par la force et même par la force armée. Il y a des films qui existent, il y a des livres, il y a des brochures. Il y a le film sur la lutte à Plogoff en Bretagne, où finalement, avec l'arrivée de Mitterrand, la centrale ne s'est pas faite. Il y a des brochures qu'on peut trouver sur Info Kiosque, d'action directe contre le nucléaire et son monde. Il y a un livre sur la lutte à Golfech aussi. On va écouter des petits sons sur ces luttes.
Conditions d'une opposition réelle. L'aggravation de la crise de la société fait que l'on perçoit les dangers principalement sous la forme d'un sentiment vague d'insécurité. Cette perception confuse des dangers n'aboutit qu'à une résignation ou à des réactions irrationnelles. Le problème actuel n'est pas simplement celui d'une perception effective des dangers, mais principalement celui de l'isolement des individus et de leur volonté d'intervenir sur les conditions qui leur sont faites. Aujourd'hui, on ne peut pas être précis sur les formes que la résolution de ces problèmes prendra. En revanche, il est certain que ce processus doit amener les hommes à reprendre leurs affaires en main, en employant des moyens propres à lutter contre la dépossession et ces outils que sont les experts, les contre-experts, les sondages, les médias, les représentants politiques. Agir pour imposer un arrêt du nucléaire est un problème qui ne peut se régler sur le seul terrain antinucléaire, étant donné les forces qu'il faut mettre en jeu. Le nucléaire va de pair avec la consommation de masse et la vie étroite qui l'accompagne. Le refuser de manière conséquente pose la question du sens de l'activité humaine, du progrès, etc. Sa critique doit s'élargir au monde qui l'a produit, qui a aussi produit l'ensemble de la dégradation que nous subissons actuellement et qui prétend aujourd'hui être le seul qualifié pour remédier à cette dégradation. Ceux qui veulent en finir avec le nucléaire doivent savoir que c'est seulement en renversant l'organisation sociale qu'il a générée que pourront apparaître les forces permettant de résoudre dans la logique d'une société humaine les problèmes de l'énergie et celui des déchets, de mettre en jeu tous les moyens permettant de contrôler les dégâts existants et d'y remédier. Une telle démarche pourrait rendre aujourd'hui plus difficile la possibilité d'en finir rapidement avec telle ou telle dégradation, ce que pourrait éventuellement obtenir la pratique des contre-experts. Néanmoins, ce qui serait perdu en efficacité à court terme se retrouverait à la longue largement compensé dans la construction d'une communauté de lutte. En 1975, au moment où les autorités nucléaires imposaient brutalement l'implantation massive des centrales, Marcel Boiteux, alors président d'EDF, déclarait
« Le plus important peut-être n'est pas du domaine nucléaire. Tous les experts en relations publiques disent, c'est bien connu, qu'il ne faut jamais répondre à un article de polémique, hors le cas précis et indubitable de diffamation. Car si l'on sait avoir tort, mieux vaut ne pas s'y risquer. Et si l'on est convaincu d'avoir raison, c'est placer l'antithèse au même plan que la thèse et lui donner un crédit inespéré. »
Le Monde, 11 juin 1975.
Le nucléaire est un plan à cause de Tchernobyl et parce que leur entreprise bat de l'aile et suscite de plus en plus de méfiance, les autorités ont adopté une attitude inverse. L'ironie de l'histoire veut qu'au moment où elles cherchent à utiliser les opposants pour leur gestion, une véritable opposition qui veut en finir avec le nucléaire doit plus que jamais utiliser ce principe de refus du dialogue. Mais, alors qu'elles agissaient ainsi pour placer les populations devant un état de fait, nous refusons tout dialogue avec l'État ou ses émanations pour nous adresser aux populations et sortir de l'état de fait. Dans cette époque où les pouvoirs expérimentent empiriquement de nouveaux moyens de domination, il faut tracer une ligne de démarcation entre eux et ceux qui veulent effectivement sortir du cercle de la dépossession, de cette soumission au règne de la marchandise et de ses conséquences. Le monde actuel se bâtit sur l'illusion d'un consensus autour de l'État dont il faut sortir. Les intérêts des partisans de la fuite en avant de l'économie s'opposent manifestement à ceux de la survie de l'humanité et bientôt il sera trop tard pour échapper à l'ampleur des conséquences de l'éclatement des rapports sociaux ou de la folie aveugle des dirigeants. Nous considérons qu'il est encore temps d'essayer de construire le terrain où la perspective d'en finir avec le nucléaire et le monde qui le produit puisse se développer. C'est seulement en se communiquant leurs pratiques et leurs projets, en fédérant leurs forces partout où ils se trouvent, que les individus trouveront les moyens de lutter contre l'isolement et de s'opposer à l'inertie et à la dépossession au sein d'une communauté de lutte. Paris, le 30 mai 1994.
Avis à la population. Les forces d'occupation évacuent le Cap Sizun. À partir de ce jour, 14 mars, 17h, Tout garde mobile surpris à déambuler sur le territoire de la commune sera considéré comme une illusion d'optique et traité comme tel. Donc, le préfet ayant donné sa parole que les forces d'occupation seraient parties dimanche soir, au plus tard, les commissaires enquêteurs ayant déclaré pour leur part être neutres et indépendants, la population du Cap ayant démontré clairement qu'elle ne voulait pas de centrale nucléaire, chez elle ni ailleurs, il est évident que nous ne reverrons plus jamais les gardes mobiles. Que le Cap et ses habitants vont retrouver leur calme et leur tranquillité et qu'il n'y aura pas de centrale à Plogo.
Deux villages, Chaux et Viremolin. Deux problèmes bien différents, la construction d'une centrale et la fermeture d'une usine sidérurgique. Mais dans les deux cas, les mêmes effets.
Entre 1979 et 1983, l'opposition à la construction d'une seconde centrale nucléaire à Chaux, dans les Ardennes, s'est heurté à la démocratie nucléaire. Occupation militaire massive et brutale, mascarade des élections et notamment arrivée au pouvoir de Mitterrand et Mauroy, médias aux ordres du lobby nucléariste. Dès les premières rumeurs en 1977, des réunions publiques ont lieu, perturbées par des ingénieurs EDF dépêchés par la direction de Chaux A, construite dans les années 50. Mais de toute la région et au-delà, entre autres de Belgique, on vient se solidariser avec les habitants. Après l'accident de Three Mile Island aux États-Unis fin mars 79, l'une des plus grandes catastrophes nucléaires civiles, des femmes séquestrent le maire pro-nucléaire de Chaux pour obtenir des explications sur la sécurité pour la population.
Mais comme Chaux c'est un petit village perdu et c'est le bout du monde, personne ne nous écoutait. Alors un beau jour on a décidé de séquestrer le maire. Après c'est encore durci encore plus. Quand il y a eu
les enquêtes publiques.
Là, c'était vraiment chaud. C'était chaud, hein, chaud. J'avais été dérober les clés. Je les ai piquées. Puis comme ça, tous les soirs, comme ils fermaient l'église, moi, j'allais ouvrir et j'allais faire sonner l'Angélus. Et quand l'Angélus sonnait, les gens savaient qu'on se réunissait sur la place. Tous les soirs à 18h, pendant bien 3 ans, 2 ou 3 ans.
Le ton se durcit lors des premiers regroupements pour empêcher le bon déroulement de la première enquête dite d'utilité publique. En mai-juin 1980, les premiers tirs sont échangés, pierre contre grenade, d'abord lacrymogène, puis offensive. Le souvenir des affrontements à Plogoff, quelques mois auparavant, tous les soirs qu'ont duré les 6 mois d'enquête, est vif.
Au départ, il y avait les documents, tout ça, la mairie, on avait... embarquait tout ça, on avait fusqué tout ça à la meuse, et puis il y a eu un enchaînement, et puis il y a pas mal de monde qui sont venus de l'extérieur, et puis voilà.
1981, les manifestations, fêtes antinucléaires, occupations de locaux se multiplient, côté français, côté belge, dans les Ardennes, à Reims. Premier bris de vitrine, première destruction de matériel, premier sabotage.
Les socialistes avaient venu à Charleville, Michel Rocard était venu à Charleville, avait dit qu'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de centrale. Et puis il y a eu aussi...
Mauroy,
c'est après lui. Mauroy, c'est pour nous annoncer que de toute façon, on l'a fait. Donc ça, c'est quand ils ont eu tourné leur veste.
Les minorités, aussi actives soient-elles, ne peuvent prétendre dicter leur loi.
Ça, on ne peut pas oublier ça. Ça, on ne peut pas oublier. Et c'est toujours pareil en politique, c'est ça. Hein.
Le coup de poignard dans le dos est donné par les socialistes et ne fera qu'enrager encore plus les opposants, qui décideront d'une manifestation chaque dernier samedi du mois, à partir de fin 1981. C'est un rendez-vous où affluent de plus en plus de personnes déterminées, venant par exemple en nombre de Paris. Ce sont des moments d'affrontement de plus en plus violents, où se nouent évidemment de grandes complicités et se vivent de bien belles émotions. Fin février, la manif se déplace à Fumée, où les gendarmes, littéralement, se lâchent, coursant et tabassant tout ce qui bouge. Plusieurs personnes sont hospitalisées, les véhicules des manifestants sont saccagés par les flics.
Comme on avait interdiction de manifester, qu'on s'est fait sortir de chaud et qu'on a passé la moitié de la journée à l'entrée du village à se faire charger par des blindés, ce qui est décidé, c'est qu'on va aller à Fumée, à la caserne du peloton spécial d'intervention de gendarmerie, qui est un corps de gendarmerie spécialement conçu pour surveiller les sites de centrales nucléaires. Et nous, on est allé là. Et effectivement, la manifestation a attaqué ce local. C'est-à-dire, on y est allé avec cocktails, cailloux, lance-pierres, enfin tout le bazar. Et la manifestation, au lieu de se passer dans le village du Chaud, elle est aboutie là. Et les gens ont manifesté là. Là, ils ont réagi de façon extrêmement violente, effectivement, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Et ils ont massacré tout ce qu'ils pouvaient comme bagnole, comme personne. Ça a pris des proportions assez incroyables. Et bon, alors Fumée, bien sûr, qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils ratonnent à ce point-là. Évidemment, c'est pas ce qu'on cherchait. Mais on a décidé d'y aller, enfin, je veux dire, et de s'arrêter là. Et c'était pas du tout un hasard. Et on a jamais été des victimes. Je veux dire, on a été en phase 2, effectivement, on n'avait pas les mêmes armes et pas les mêmes moyens, ça évidemment, mais on n'a jamais été des victimes.
Au printemps 1982, les sidérurgistes de l'usine de la Chierse, dans le village tout voisin de Vireux, se mettent en grève contre le projet de fermeture de leur usine. Les deux mobilisations vont rapidement se rejoindre, même si les ouvriers menacés de chômage ne se sentaient pas forcément très anti-nucléaires.
Il y a, et c'est là que tout commence à s'enchaîner, au même moment qu'il a fallu faire des choix pour la sidérurgie française, il y a eu le choix de l'implantation d'une nouvelle centrale nucléaire. Ça s'est implanté chez nous, c'est nous qui avons gagné. Les antinucléaires étaient contre cette forme de fabrication d'énergie. Nous, non. On était contre la centrale de Chaux qui nous privait d'emploi. C'était pas pour les mêmes raisons. Ils mettaient en plus la dangerosité du nucléaire, les conséquences du nucléaire sur l'emploi social.
Mais face au même keuf, face au même mode de décision imposé par le diktat économique, métallos et antinucléaires se découvriront une même énergie. Et avec les ouvriers de la Chierse, ce sont aussi des outils et des techniques de résistance qui apparaîtront. Un barrage sur une nationale n'est pas le même, avec ou sans, l'apport de tonnes de métal.
Une barricade à Vireux, c'est 200 lingots d'acier de 2 tonnes superposés en pyramide, avec des bonbonnes de gaz au milieu, pour que ça explose quand le blindé il arrive, et recouvert d'une bonne couche de phosphore, pour que quand il est enflammé, plus il l'éteigne. Ils arrivaient avec les canons à eau, plus il l'éteignait, plus ça s'enflammait grâce au phosphore. J'ai vu un mec, il était là, il faisait ses calculs, un ouvrier, il faisait ses calculs pour attacher un pylône, le pylône électrique, dans le sens de la barricade, que si le blindé pousse, le pylône lui tombe sur la gueule. Tous les calculs comme ça.
Des liens durables de solidarité se noueront, et les derniers samedis du mois enflammeront de plus en plus les foules, armées maintenant également de boulons, billes d'acier et cocktails Molotov. Entre les manifs, les opérations coup de poing des sidérurgistes se multiplient, les actes de sabotage aussi. En juillet 1982, le château de la Buchère, résidence patronale non loin de l'usine, est détruit par un incendie. Tout au long de l'automne, les affrontements contre les flics se radicalisent et on compte de plus en plus de blessés de part et d'autre. Barrage, dégagement par les forces de l'ordre, attaque des convois de keufs, destruction d'engins de chantier. Fin 82, début 83, l'avancée du chantier des deux réacteurs de Chaux B mine le moral des opposants, déjà fatigués par des mois d'affrontements. La démobilisation s'accélère, une partie des syndicats de la Chierse se ressentent sur la négociation d'un plan social. Début décembre 1983, ce sont encore 5 véhicules d'EDF qui sont incendiés à Rethel. Mais les réunions et les manifestations rassemblent de moins en moins de monde. Le comité de Chaux s'autodissout en août 1984.
On se bat contre quelque chose qui est imbattable, le pouvoir. Et le pouvoir a fait qu'ils avaient décidé de fermer cette usine. À Vireux, ça a duré 2 ans. Grâce à la population, grâce aux gens, qui sont venus participer à nos mouvements, des gens de l'extérieur, comme on dit, pas forcément des mauvais, comme ça a pu être dit par l'État. Tous les gens ici étaient déterminés et ils pouvaient mettre 1500 CRS. Ça ne servait à rien. Ce qui était fait, je pense qu'il fallait le faire. Pour les tripes. Pour pouvoir se regarder dans une glace le matin, en se levant.
Malville, Golfech, Plogoff, Shaw, la question de l'affrontement s'est finalement encore plus posée que toutes celles posées par le nucléaire. D'ailleurs, ce ne furent rapidement plus des questions, mais des évidences. Et c'est certainement l'évacuation toute citoyenne de la préoccupation du rapport de force qui a fait défaut à la continuation d'une opposition concrète à la nucléarisation de la société.
Mon comité de défense de Chaux. Soutien total de la population de Plogoff. Courage et tenez bon, Plogoff.
EDF ne mettra jamais une centrale nucléaire à Plogoff.
Je pensais que vous irez jusqu'au bout.
Jusqu'au bout. Il faudrait, pour qu'il puisse y venir, qu'il fasse le vide à Plogoff. C'est-à-dire qu'on nous mette sur une île, je ne sais pas moi, que... Il faudra vraiment faire le vide à Plogoff pour pouvoir y venir.
Plutôt mourir, s'il le fallait. Je crois que c'est l'état d'esprit de beaucoup d'entre nous, hein, de nous tous en particulier, je crois. Et les jeunes, les moins jeunes, les anciens, plutôt mourir que de voir nos terres, nos maisons, nos terres détruites, nos maisons détruites également, et être obligés de nous implanter ailleurs.
Société nucléaire, société policière. On vient d'entendre deux extraits de l'émission Basse Intensité, Pour en finir avec le nucléaire et lutte à chaud, ainsi qu'un extrait du film Plogoff, des pierres et des fusils. Société nucléaire, société policière, les prochaines émissions de Forêt Reclus à l'Elysée, ça sera sur les violences policières, avec les interventions de Mathieu Rigouste, chercheur en sciences sociales, et de Pierre Thévagnan à la rencontre organisée par le comité Vérité et Justice pour Hakim Hajimi le 5 février 2011 à Nice.
Donc c'est la suite de l'émission qu'on avait faite avec Walid.
C'est cela. Et on vous salue et on vous dit à bientôt. Continuez à vous informer.
Informez-vous, prenez l'air si vous pouvez, on va dire. Et puis, bonne soirée à tous et puis à dans 15 jours.
Au revoir.
Nous, les gardes de Pripyat, marchons tous la tête basse sous le vent de nos palaches. Une poussière flambée de honte. Des avenues vidées de vie sur le sol où brûle la neige en particules assez traîtresses. Les yeux